l'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
L'Afrique dans tous ses états, c'est toujours avec Marie-Claude Siakezak. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Alors, nous commençons une deuxième partie d'émission. Nous avons traité de l'enfance et notamment du tout petit bébé.
Du nourrisson, voilà, du nourrisson. Parce que voilà, les pratiques encore traditionnelles de l'Afrique sont des émerveillements, je pense, pour les mères que nous avons été ou que nous serons ou que nous sommes. Et c'est vrai, ce rapport particulier, ce rapport au corps, ce qui fait qu'on trouve des enfants très toniques. Voilà, alors là, on en parlait effectivement, c'était plutôt un peu idyllique, malheureusement, excusez-nous, mais aujourd'hui, ce sera peut-être un peu moins amusant, parce qu'on va rentrer aussi dans une réalité cruellement économique. Hein, et donc, voir un petit peu comment on peut faire une place à cet enfant. Comment on peut l'aider à grandir. Alors, il se trouve que par hasard, comme je préparais cette émission, je suis tombée sur un avis, sur une annonce, et je ne savais pas que l'Afrique organise chaque année la Journée mondiale de l'enfant africain. Et c'est en mémoire des massacres des enfants de Soweto, je pense, par l'Afrique du Sud, de l'apartheid, je pense que vous en souvenez. Ça a été quelque chose de tragique. Et donc, en souvenir, en mémoire, chaque année, il y a une journée mondiale pour l'enfant africain et pour la protection de l'enfant africain qui s'organise avec plusieurs pays qui apportent leur contribution. Alors, pour l'instant, ils sont en train de je sais pas, j'ai pas encore des détails, mais ils sont en train de faire des propositions. Bon, je sais qu'il y a déjà propositions au niveau des enfants de la rue.
On en reparlera sûrement.
On va en reparler.
On va essayer d'en reparler. Oui, se tenir ça.
Voilà, moi, j'ai travaillé pendant trois ans, j'ai fait un projet avec les enfants de la rue, justement, au Burkina Faso. Je sais qu'actuellement, il y a des luttes contre, et malheureusement, c'est un fléau qui continue, et qui fait que. Maintenant, en plus, actuellement, avec l'évolution, si on peut appeler ça une évolution. Des sociétés, ce que je ne voyais pratiquement pas, par exemple, notamment la prostitution ou la toxicomanie. Actuellement, c'est des choses qu'on voyait très très peu. Ils se contentaient de se shooter un peu avec de la colle ou des choses comme ça. De la prostitution, il n'y en avait presque pas, il y a un peu plus de 20 ans. Et maintenant, malheureusement, c'est devenu très très moche. Donc, la situation économique, elle fait que c'est dur. Elle fait que moi, j'ai vu régresser le nombre de... Et je pense qu'il n'y a pas qu'au Burkina, justement, j'ai relu un petit peu le nombre d'enfants scolarisés. Alors, il y a des pays qui sont un peu épargnés. Par exemple, au Sénégal, qui est un pays un petit peu à part, qui a quand même une tradition de lien très étroit avec la France, entre autres, et puis d'intellectuels, etc.
Mais on voit ce qui se passe aujourd'hui.
Voilà, avec ce qui se passe aujourd'hui, qui est quand même terrible. Bon, mais il y a les pays très pauvres comme ça, comme la Guinée, comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger. Il y a quand même eu, même je trouve, plutôt en tout cas au Burkina, une baisse de scolarisation, en sachant que ce sont les filles. Alors on parle en ce moment, hier c'était la journée de la femme. On parle énormément de du féminisme, etc. Mais que dans les familles, ce sont les filles qui sont déscolarisées ou qui ne sont pas scolarisées quand il n'y a pas les moyens. Celui qu'on va envoyer à l'école, c'est le garçon. Et je me souviens avoir écouté une émission, être allée rencontrer Malika Moukedem, qui est une romancière très connue, qui est d'origine algérienne, qui était médecin, je pense qu'elle a la retraite en France, qui racontait que si elle était allée à l'école, c'est parce que au village, à l'orée du désert, où les colons avaient, à l'époque, les colons français avaient un devoir de scolariser au moins un enfant du village. La chance qu'elle avait eue d'être allée à l'école, c'est que cette année-là, il n'y avait pas de garçons en âge scolaire. Ça m'avait frappé à l'époque. Voilà. Et donc, les filles sont déscolarisées en priorité. Et c'est elle, après, qui se coltine toutes les tâches ménagères, etc. C'est vrai que aussi, il y a dans cette dans cette régression ou cette paupérisation, si encore c'était possible, il y a un facteur essentiel qui est arrivé et qui a complètement ruiné ces pays-là, et notamment le Burkina, bon, c'est le sida, le VIH. Et ça a été quelque chose qui a modifié énormément même la structure familiale. C'est-à-dire que traditionnellement, la mère, et ça m'est arrivé, je crois même que j'en parlais la dernière fois, ça m'est arrivé d'aller à la maternité pour chercher des jeunes femmes qui avaient accouché. Et je racontais ça l'autre jour. Et en général, la femme ne reste pas à la maternité. Et on l'emmène traditionnellement dans la grande famille paternelle, du père. Et donc, actuellement, à cause de tout ça, tout se recentre principalement sur la mère et sa famille pour quand il y a des orphelins. Mais ce qui se passe, c'est que l'association que nous soutenons maintenant, la grande association que nous soutenons maintenant, Espoir pour Demain, est née de cette expérience-là, de cette histoire-là. C'est qu'il n'est pas rare que, en tout cas en ville, alors en brousse, peut-être que dans le village, on ne dit pas que c'est la maladie, on ne dit pas que c'est cette maladie-là, mais en ville, on voit souvent, et c'est comme ça, c'est parce que Christine, la présidente de l'association Espoir pour Demain, avait recueilli une femme qui était à la rue avec son bébé qui avait le sida, la femme avait le sida, et donc on les chasse, et on dit que c'est. Alors que c'est. Dans 99% des cas, c'est le père. L'homme qui transmet la maladie, et ils sont chassés. Et donc, alors, soit la famille maternelle a un peu l'esprit large ou et accueille la mère et l'enfant, soit, en effet, la femme, elle se retrouve à la rue, ce qui s'était passé pour ce bébé, qui est mort d'ailleurs chez Christine, au domicile de Christine. Voilà. Et ce qui est perdu aussi dans cette histoire, et sûrement que l'épidémie du sida y a fait pour beaucoup, c'est la perte de la tradition du lévirat. Alors en ville, évidemment, de toute façon, toutes les traditions se perdent beaucoup plus vite, c'est comme chez nous, quoi. Mais le lévirat, c'était le remariage de la veuve avec le frère de son mari défunt. Et l'objectif, c'était surtout de protéger cette veuve avec ses enfants, c'est-à-dire qu'elle retrouvait un mari. Alors après, le mariage ne se consommait pas forcément, etc. Mais c'était une tradition qui était faite pour protéger la mère et son enfant en cas de veuvage.
Pour leur donner un nouveau foyer.
Voilà, renouveler un nouveau foyer. Ouais. Sauf que souvent, comme elles sont contaminées, parce que l'homme est mort du sida, elles sont, pareil, donc du coup stigmatisées, et du coup, on ne s'en occupe plus, le frère ne prend pas le risque de se contaminer, de contaminer ses autres enfants, ses autres femmes, etc. Alors, il y a aussi... Il y a aussi quelque chose qui perdure, et ça c'est une anthropologue qui travaille beaucoup au Burkina, hein, Alice Desclos, qui travaille beaucoup au Burkina, entre autres en Afrique. Hein, je crois qu'elle a même elle habite actuellement au Sénégal, à Dakar. Elle est une anthropologue qui dit qu'en Afrique de l'Ouest, l'enfant est considéré à la fois comme un être autonome et comme un ancêtre qui revient. Donc, il est jugé souvent comme ayant transmis la maladie à sa mère. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais découvert et dont j'avais parlé dans ma communication sur l'allaitement maternel. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, traditionnellement, c'est comme s'il revenait. Et souvent, quand on voit des ressemblances avec un ancêtre, alors là, on est sûr que de toute façon, c'est cet ancêtre qui revient. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les enfants, quand un enfant naît, quand les parents sont relativement... Quand il a la chance d'être dans une famille... où on va l'inscrire à l'état civil, donc au niveau légal de la loi, on lui donne des prénoms qu'on choisit, alors c'est souvent rigolo, parce que c'est des prénoms ou très anciens, ou à la mode, etc., ou presque inventés, mais par contre, on attend un certain temps pour que les anciens de la famille redécouvrent ou l'envoient sur un ancêtre. Et donc, on lui donne un nom traditionnel d'ancêtre, ou alors ça peut être... Ça peut être un nom qui a une signification, protection de Dieu, que Dieu le protège, ou voilà, il y a des noms comme ça traditionnels qui sont donnés, qui sont ajoutés après à l'état civil. Voilà. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça a modifié énormément. Alors, effectivement, il y a les grandes campagnes de vaccination. Il y a pas mal de... Maintenant, on rend gratuit les soins de la mère et de l'enfant pour l'accouchement. Enfin, il y a eu des progrès qui ont été faits. Mais quand même, il y a quand même aussi cette extrême pauvreté. Et il y a quand même aussi cette richesse qui est aussi sa tare à l'Afrique, c'est de la persistance des traditions. Et en sachant que maintenant, les traditions, on les retrouve, tout ce dont je viens de parler, on le retrouve aussi quand ça arrange tout le monde, quoi, hein, parce que ça arrange les familles, surtout les familles, de ne pas avoir à s'occuper, de ne pas avoir des bouches supplémentaires à nourrir, etc. etc. Enfin, c'est vraiment... voilà. Et donc, c'était une étude que j'avais regardée il y a quelques années, où qui disait qu'elle estimait qu'il y avait 8 orphelins sur 10 au Burkina Faso qui avaient abandonné l'école. Parce que l'enfant, souvent, dans les milieux très pauvres comme ça, il va aller à l'école, en tout cas dans le primaire, mais il va continuer à travailler. Il va faire un petit boulot au marché, il va servir, il va vraiment... Voilà. Et puis dans beaucoup de milieux, le travail remplace l'école, hein. Soit à la maison pour partager les repas, je disais tout à l'heure, pour les filles, soit à l'extérieur pour apporter un peu d'argent. Il y a des enfants là-bas au marché, ils vous vendent des petits sachets en plastique, des choses comme ça, quoi, hein.
Alors, j'ai l'impression, en effet, à vous écouter, Marie-Claude, qu'il y a une sorte de rupture entre ce statut de nourrisson vraiment en position fusionnelle avec sa mère, très proche, dont on prend soin, qu'on ne lâche pas d'une seule semelle. Et puis tout à coup, cette situation où l'enfant, il est capable d'aller à l'école, de travailler, d'être presque corvéable. Mmh. Ça se situerait vers quel âge, cette situation-là?
Cette situation-là, je pense que c'est dès que quand l'enfant est sevré complètement et qu'il commence vraiment à se débrouiller physiquement. Parce que très tôt, ils sont très débrouillards, ils sont très adroits, puis ils ne sont pas hyper protégés, donc ils peuvent prendre des risques, ils apprennent eux-mêmes à se protéger, etc.
Et là, lien avec la mère, il se distend.
Et le lien avec la mère, il se distend, d'autant que la tradition africaine veut que, et ça, il y a même plein de dictons, plein de maximes, plein de textes qui le disent, de paroles, l'enfant n'appartient pas à ses parents. Alors, il est dans cette relation-là avec la mère, parce que c'est elle qui est la gardienne de cette vie, de cette survie, de cette santé, de faire un humain à part entière de son nourrisson, son enfant. Mais sinon, il n'appartient pas. De toute façon, en Afrique, il n'est pas rare que quand un enfant fait une bêtise, il soit censuré ou sanctionné, y compris si c'est dans la rue. Ça peut être à partir du moment où un adulte est en posture d'éduquer un enfant, il peut très bien punir un enfant, le gronder, enfin vraiment, l'enfant
sans
n'appartient
en
pas
à la maman.
Voilà. Et en plus, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que une tante, une grand-mère, une femme peut s'approprier un enfant, peut dire c'est mon enfant. Et ça peut même arriver très tôt, c'est-à-dire que la mère continue à être là. Il y a même des grand-mères, en cas de grosse carence, qui allaitent leurs petits-enfants, quand la mère ne peut plus, quand elle est malade, quand elle a disparu, etc. Donc, parce que l'allaitement chez la femme, là-bas, ça ne s'arrête pas pratiquement, puisqu'elles ont toujours des enfants. Elles les sèvrent des fois parce qu'elles en ont un qui arrive, etc. Et donc, donc cet enfant n'appartient pas. Alors, il sait qui sont ses parents biologiques, et en plus, le biologique n'est pas premier en Afrique, pas du tout. C'est vraiment, alors il y a l'appartenance, voilà,
c'est la relation
et c'est un moment, voilà, cet enfant, il me doit le respect, il me doit vraiment, etc. Donc, c'est totalement différent, on est complètement dans une dimension différente de la gestion de l'enfant. Tout à fait. Alors, je voudrais juste vous lire un petit poème. Enfin, il est très court. C'est Kwam Tawa, qui est un poète camerounais que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance qu'on m'offre un livre à lui avec des illustrations magnifiques. Pas de lui, d'ailleurs, c'est une Française qui a fait. Et c'était pour vous dire, puisque je vous parlais tout à l'heure des filles. Alors, il dit « Où vas-tu, Fatima ? Je m'en vais au marché. Pourquoi faire, Fatima ? Vendre noix et cola ? Qui t'envoie, Fatima ? La femme de mon père. Tu pleures quoi, Fatima ? Fini ma part d'école. » Voilà. Et c'est pour dire que, comme il y a plusieurs femmes, etc., etc., les marâtres sont souvent très, très durs, surtout avec les filles, et elles les utilisent beaucoup. Voilà.
Ninye kabila kendoje Musu kendo lebe loringa kuma Tunyalem na kabilo barakata kende kede Tumumengi tenyumusu ya bangu
Avec Sonia Djobarté, on est en Afrique avec aussi Marie-Claude Siakeza, on parle de l'enfance. Alors, la semaine dernière, c'était le nourrisson. Là, on passe à l'enfant qui prend son essor, voilà, complètement réconforté par sa maman, qui lui dit finalement, va dans le monde, mon enfant. Tu as tout ce qu'il faut.
Voilà.
Mais il y a quand même des petits soucis après.
Oui, il y a quand même des petits soucis, d'autant qu'il y a quand même les réalités économiques, si vous voulez, et que, en effet, ce qu'on se disait, Guylaine, et tout à fait à juste titre, c'est vous surtout qui le soulignez, c'est que quand même, ce bébé, il a une construction qui est solide. Alors là, on a passé vraiment les tourments alimentaires pour se nourrir, pour se soigner, parce que moi, j'ai vu des enfants mourants, et là-bas, c'est assez... Il y a quand même des dispensaires, il y a quand même des gens un peu qui veillent, mais il y a des mamans aussi qui sont complètement débordées, et puis surtout qui sont dans un état de pauvreté et qui elles-mêmes... Qui elles-mêmes ne peuvent pas, avoir suffisamment de lait. Mais enfin, cet enfant, dans la tradition, vraiment, autant que faire se peut, et quand même, elles ont recours, surtout en ville, il y a des centres de nutrition dans les dispensaires, etc. Bon. Et l'enfant se construit très bien, et on se disait vraiment qu'en fait, c'est que autant cet enfant, il est enveloppé, il est tenu, il est autant dans un cocon avec sa mère, autant après, finalement, la mission de la mère, c'est de permettre à cet enfant de prendre son élan. Et à ce moment-là, ce que j'expliquais, c'est qu'il ne lui appartient plus. Il ne lui appartient plus, il appartient à la communauté, etc. Et chez la mère, il y a un sevrage qui se fait,
qui n'est pas toujours facile chez nous, je dois le dire, en tant que praticienne de la psychothérapie et des enfants et des mères, qui n'est pas facile chez nous, alors que là-bas, c'est quasiment automatique, quoi, ça se fait automatiquement. On voit, j'ai même vu des sevrages sauvages parce que la mère était enceinte à nouveau, etc., etc. Et comme souvent, il y a un enfant qui se profile, mais de toute façon, traditionnellement, cet enfant n'appartient plus, il ne lui appartient plus, donc de toute façon, voilà.
Là, les ennuis commencent.
Les ennuis commencent.
Pas toujours, mais
voilà.
Grandes villes surtout, peut-être.
Voilà, dans les grandes villes plus, mais il y a des fois, dans les campagnes, ça devient tellement dur que moi, j'ai vu des gens arriver, des femmes complètement squelettiques avec des enfants. J'ai vu mourir, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle « La jumelle ». C'était des jumelles et tout. Et quand on dit à ces femmes, mais pourquoi tu ne restes pas au village? Parce qu'au moins au village, elle dit non, c'est plus possible, il n'y a plus de quoi manger. Enfin, c'est terrible. C'est terrible et qui arrive dans des états de santé horribles, en ville. Et donc, c'est vrai que je parlais aussi des filles qui sont un petit peu les sacrifiées, c'est-à-dire qu'elles. Sur l'autel du service, etc., traditionnellement. Et alors, ce qui les guette aussi, les filles, malheureusement, et de plus en plus, c'est la prostitution. Voilà, par exemple, quand les parents sont morts du sida, où j'expliquais aussi que les mères souvent se font chasser, donc elles n'ont plus accès, alors que traditionnellement, elles étaient hébergées dans la famille du père, que la mère, on la dépouille de ses biens. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu un garçon extraordinaire, la maman qui était une femme... qui est morte, la pauvre, en se rendant en Côte d'Ivoire, on lui a donné un traitement qui était antinomique avec sa trithérapie, et elle est morte. Et cet enfant, il avait 9 ans ou 10 ans, et c'est mon amie Christine qui avait dû se battre, parce que la famille voulait lui enlever tout, y compris la mobilette que sa mère utilisait parce qu'elle travaillait comme conseillère dans l'association. Enfin, vraiment, c'était... Et alors, cette femme, quand c'est une fille comme ça, elle devient chef de famille, elle arrête l'école, et voilà, quoi. Et du coup, elle est complètement condamnée à s'occuper. Et souvent, elle n'a pas d'autres ressources que la prostitution. D'autant que les filles là-bas, souvent, il n'y a pas un interdit sur le sexe comme chez nous, encore que maintenant, on voit bien que ça devient chez nous aussi. Mais ce sont des filles qui sont facilement abusées par des professeurs, des instituteurs, des proches de la famille, des amis, et elles sont naïves, on les flatte, etc. Et comme il n'y a pas ce tabou en plus de passer à l'acte sexuel, etc. Et donc des fois, très souvent, elles se font enceinter, comme elles disent là-bas, et c'est là où après elles veulent vous donner les enfants, que chaque fois, moi, ça m'a coûté d'être complètement dans tous mes états, parce qu'on voulait me donner, ces jeunes femmes voulaient me donner les enfants. Donc il y a aussi cette prostitution qui, et avec après le risque aussi qu'elle-même, elle contracte le VIH, etc. Et voilà. Donc, il y a une perte aussi des logiques, aussi à cause du sida. Voilà. Et je voudrais vous livrer une petite citation. Et je voudrais vous livrer une petite citation d'une fille qui était dans une situation comme ça, difficile, etc., et qui était soutenue par l'association, et qui disait « Je voudrais être infirmière pour soigner ma mère et ma famille. Souvent, quand ma mère est malade, elle vomit, elle ne peut pas manger, elle ne boit pas, elle dort seulement, et c'est tout. Je suis assise à côté d'elle, et si elle a besoin de quelque chose, elle m'y envoie et je pars. C'est une petite fille de 12 ans. » qui dit et qui à ce moment-là se retrouve pratiquement comme chef de famille et comme en charge non seulement de la misère de sa famille mais en même temps vraiment en charge de toutes les tâches et souvent sans argent donc ben qu'est-ce qu'on fait on fait voilà et donc cette pauvreté là je vais vous redire aussi une petite citation parce que c'est vraiment ce sont des émotions africaines qui reviennent avec ça. C'était le poète camerounais Kwame Tawa qui le dit. Comme j'aimerais mon enfant ne pas devoir te soustraire à l'assaut d'une épidémie ou d'une pénurie. C'est-à-dire que dès que dans ces pays-là, dès que l'enfant grandit et tout, on sait que de toute façon on va être amené. Et souvent avec impuissance, parce qu'on n'a pas les moyens, on va être amené à devoir tout faire pour essayer de le sortir de cette misère dans laquelle on se trouve. Et souvent, c'est aux façons épidémiques. On voit bien maintenant, ils ont aussi d'ailleurs le Covid. Mais déjà, le sida, c'était pas mal.
ou les pénuries alimentaires, parce qu'en plus, avec les systèmes actuels, les prix de la consommation alimentaire augmentent d'une façon délirante. Alors, il y a un phénomène aussi dont je voulais parler, parce que donc, moi, je me suis donc occupée, je vous disais, d'enfants de la rue pendant plus de presque 3 ans. Et c'est quelque chose déjà qui m'avait frappé à l'époque. Et je sais que ça court un peu dans toute, en tout cas toute l'Afrique de l'Ouest. Et ce sont dans les pays surtout qui sont musulmans. C'est le phénomène qu'on appelle, ça c'est au Sénégal qu'on appelle les garibous. Et je crois que c'est un peu, d'ailleurs c'est un petit peu utilisé partout. Et en fait ce sont des enfants qui sillonnent des villes, qui sillonnent des routes. C'est terrible, ils ont une grosse boîte de conserve, c'est des boîtes de... On a envoyé ici, maintenant on n'en voit plus. C'est du concentré de tomates, ce sont des boîtes en fer rouge qu'on utilise beaucoup en Afrique. C'est des grosses, grosses boîtes qu'ils ont suspendues, ils ont fabriqué une espèce de poignée. Et ils mendient dans les villes, ils mendient le long des routes, ils mendient de tout. Ils mendient de l'argent, ils mendient de la nourriture. En général, ils sont très maigres, ils sont habillés avec des guenilles. Et c'est vraiment terrible de voir ces enfants. Et je sais que les gouvernements, bon, je sais que par exemple au Burkina, il y avait des panneaux un peu partout qui disaient que c'était pas que la mendicité, c'était pas fait pour les enfants. Je sais qu'au Sénégal, il y a eu des grandes campagnes, même récemment, pour lutter et dans d'autres pays. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces enfants-là, qui grandissent dans des familles où on meurt, où on crève la faim, sont confiés, alors ce sont des familles musulmanes, ils sont confiés à des maîtres coraniques, dont la vocation, alors ça c'est sûrement une tradition ancienne du Coran, que je ne connais pas bien. Les maîtres coraniques, normalement, ils avaient des écoles, mais ce sont des écoles, je dirais, mobiles, quoi, parce qu'il n'y a pas de vraiment, où il y a peut-être un local, mais...
Y a-t-il un enseignement ?
Alors, voilà, ils sont censés leur donner un enseignement. Et en fait, la plupart du temps, ils les obligent à mendier, pour eux, leur rendre, donner de l'argent, à leur donner tout, voilà. Et sous prétexte qu'on de cet enseignement islamique, le maître les conduit à être affamé, et il est contraint à chercher pour survivre, et les maîtres sont violents, sont très durs. Et ça, moi, je peux le témoigner, parce que quand je m'étais occupée des enfants de la rue, là, au dispensaire, j'ai suivi plus particulièrement, je l'avais retrouvé il y a quelques années, un garçon qui avait un problème qui était visiblement intelligent, mais qui était très traumatisé. Et il avait notamment un problème pour intégrer le calcul, mais le calcul simple, hein, vraiment, ça rentrait pas. Donc, j'avais noué une relation avec lui, et peu à peu, j'étais arrivé peu à peu à le familiariser avec des exemples concrets, etc., le rassurant, etc. Et en fait, ce garçon m'avait expliqué que il avait été recueilli dans la rue parce qu'il s'était enfui justement de chez son maître coranique, parce que ses parents l'avaient confié. D'ailleurs, il en voulait énormément à ses parents, il était très en colère, et il était tombé voilà, sur un gars comme ça, et qu'il n'avait pas supporté d'être maltraité, d'être frappé. Et un jour, il avait fait quelque chose au qu'ils font pas puisqu'ils sont, ils sont élevés dans l'idée de la tradition, c'est Dieu, etc. Donc Dieu, c'est le maître coranique qui nous donne les enseignements, etc. Donc on doit le respecter. Et il avait frappé le maître coranique. Et il était parti en courant. On l'avait recherché, hein, longtemps. Et il était arrivé, justement, dans la ville de Bobo, à ce moment-là, etc. Voilà. Et je l'ai retrouvé plus tard. Il avait quand même eu des traumatismes d'abandon. Ça, c'est l'occidental qui parle, mais c'était ça, quoi. Et après, il avait recherché son père. Puis je crois qu'après, les dernières fois que je l'avais vu, il avait plus ou moins retrouvé la trace du père qui était décédé, mais il avait peut-être des champs qu'il pouvait cultiver, enfin tout ça. Mais pour dire le traumatisme que ça lui avait laissé, et même encore à l'époque où je l'ai revu, où il était quand même un jeune adulte, il se rappelait très bien évidemment de moi, de tout ce qu'on avait fait ensemble et tout ça, même là encore, on sentait le trauma qui était encore là. Les éducateurs de rue que je connaissais bien, avaient essayé, tout le monde avait tout essayé, et régulièrement, ils prenaient une colère comme ça, et voilà, ils ne pouvaient pas s'en empêcher, quoi. Voilà.
Marie-Claude, on va devoir s'arrêter aujourd'hui.
Oh oui, c'est dommage.
On reviendra peut-être sur ce thème de l'enfance.
Oui.
On va tout de suite se quitter avec un dernier morceau que vous avez choisi, Marie-Claude, Ismaël Lo, Africa.
Africa, voilà.
On se retrouve
la
dans
voix
une...
magique d'Ismaël Lo. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir,
Hélène. Au revoir à tous. Et merci.
Nous sommes des enfants d'Afrique. même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Afrika, mon lainyan. Manejamu Afrika, moi sunyo natange. Yeah.